Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Eh bien, Brice Couturier, tout de suite, bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous nous parlez depuis lundi d'un phénomène de société, l'exigence d'authenticité, qui semble correspondre étrangement à une certaine dévalorisation de la vérité. Hier, vous nous avez présenté la thèse de Lionel Trilling, selon laquelle l'authenticité serait une des caractéristiques de la modernité elle-même, une manière de revendiquer une forme d'originalité individuelle qui peut s'avérer antisocial.
Oui, et cette demande d'authenticité concerne, remarquez-le, tous les secteurs. Les spécialistes du marketing le savent bien, les consommateurs veulent des produits authentiques, on appellera ainsi certains, parce qu'ils sont issus d'une tradition locale, d'autres parce qu'ils sont composés de matériaux réputés naturels. Les articles de luxe peuvent être vendus très cher parce qu'ils sont issus d'un savoir-faire ancestral, etc. Alors on peut se moquer, comme Francesca Elliott, de ces riches New-Yorkais qui remplacent leurs belles tables de cuisine par des vieilles portes de bois massif, rugueuses et rongées par les vers venus de quelques vieilles fermes du Midwest, mais c'est ainsi. Les gens veulent de l'authentique, alors on leur en vend. Alors c'est évidemment dans le domaine politique que cette demande d'authenticité s'avère la plus cruciale. Les partis populistes, partout à la manœuvre en notre époque désenchantée, sont fondés sur une prétention toute particulière à l'authenticité. C'est la thèse que développait l'économiste et politologue Timur Kuran dans un essai publié l'an dernier par le site Cato Unbound. Les populistes, écrivait-il, sont censés parler avec leur cœur, dire ce qu'ils voient, et donner voix aux inquiétudes des masses. Leur promesse politique, eh ben, si on leur donne le pouvoir, celui-ci deviendra plus honnête. Il ne faut pas se le cacher. Ils surfent ainsi sur la lassitude d'un public agacé des discours convenus et ambigus destinés à ratisser large. La langue de bois politicienne n'est pas un mythe. Il y a en effet une manière de s'exprimer vague et ambiguë, technocratique ou moralisatrice, qui est devenue le style même du pouvoir. Mais si les dirigeants des États démocratiques paraissent souvent s'adresser de manière différente aux divers secteurs de leur électorat, c'est pour des raisons dont le public n'a pas toujours conscience. Et Timur Kuran prend l'exemple bien concret d'un élu des États-Unis qui souhaite la création d'une école dans un quartier défavorisé. Il va lui falloir convaincre des électorats aux idées et aux intérêts divergents. Aussi, aux uns, les entrepreneurs, il va vanter l'amélioration du niveau de qualification des habitants du quartier. Aux autres, les classes moyennes, il va expliquer que cela aurait pour effet de faire régresser la criminalité. Aux intéressés, il tiendra le discours de la justice sociale. Un dirigeant dans une démocratie doit en effet bâtir des coalitions. Dans une société qui, comme les nôtres, accepte et valorise la diversité des opinions et des intérêts, il n'y a pas d'action collective possible sans compromis. Oui, les élus doivent adapter, tailoring, comme il dit, leur discours en fonction des publics visés. Et cela n'a rien à voir avec l'inauthenticité qu'on leur reproche, mais avec cette nécessité de forger des coalitions.
Oui, forger des coalitions. Mais l'obligation dans laquelle ils se trouvent de fédérer des publics différents peut aussi donner l'impression, en tout cas une impression, d'un manque de sincérité. Car après tout, Brice, des politiciens peuvent mentir dans un but moins noble que de faire construire une école pour acquérir ou conserver le pouvoir, tout simplement.
Oui, bien sûr, et cette impression n'est pas infondée, gonfle aussi l'actuelle poussée populiste. Trump, par exemple, pour se distinguer de la classe politique américaine traditionnelle, s'est imposé en s'exprimant de manière, on le sait, vulgaire et provocatrice. Par des gestes transgressifs, il mettait en scène ainsi sa supposée différence, son éloignement de l'establishment de Washington. La stratégie des leaders populistes, lorsqu'ils s'emparent d'un parti, c'est de poser aux représentants de la base contre la machine électorale. Cela les rend sur le moment rafraîchissants, écrivait Timur Kuran. Mais cette pseudo-sincérité a pour inévitable conséquence un appauvrissement dans la présentation de la réalité, une réduction des problèmes les plus complexes à quelques idées fixes ressassées en permanence. En français, on dit toujours « y'a qu'à faucon », n'est-ce pas ? Eh bien, les politiciens populistes expliquent que tous les problèmes peuvent être résolus sans léser les intérêts d'aucune fraction de l'électorat, ce qui est bien sûr un manque. Généralement, ils prétendent que seul l'étranger paiera la facture de leurs promesses inconsidérées, mais qui ne voit que les mesures protectionnistes, par exemple, ou les dévaluations compétitives, provoquent inévitablement des réactions de même ampleur chez les partenaires commerciaux. Lorsque les candidats populistes sont élus, car cela leur arrive, dit encore Timur Kuran, qui écrivait, il faut le noter, juste avant la victoire de Trump, ils s'avèrent bien entendu incapables de tenir la plupart de leurs promesses électorales. Alors ils mettent en cause des puissances obscures, le mur de l'argent, des complots menés de l'étranger. comme les dirigeants des États totalitaires qui attribuaient systématiquement les désastres provoqués par l'application de leurs idées absurdes aux traîtres et aux saboteurs. Mais rétrospectivement, écrit Timur Kuran, alors que se sera éteinte l'excitation de la campagne, eh bien les électeurs verront que l'authenticité qu'on leur avait présentée n'était qu'un masque astucieux, porté par leur candidat dans l'idée de se montrer plus malin que ses adversaires. Ainsi prédisait-il, l'authenticité de Trump, s'il parvient au pouvoir, se révélera une simple affaire d'esbrouf, d'exagération, émanant d'un personnage à l'ego surdimensionné.